Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Une émission pensée et réalisée par des familles touchées par la déficience visuelle. Si vous vous sentez concerné de près ou de loin par le sujet, sachez que vous pouvez nous rejoindre l'équipe, afin de créer ensemble les futures émissions. Je vous dirai comment tout au long de cette présente émission, mais là, je n'en dis pas plus, car le programme est chargé. Nous allons retrouver sans plus attendre la suite du portrait inspirant de Bachir. Il va nous parler un peu de ses années lycée, mais surtout de sa vie dans l'Algérie des années 90. Puis nous nous quitterons avec une nouvelle chronique de la peau dédiée au podcast proposé par Valérie. Belle découverte et bonne écoute. Bachir, c'est à toi.
Bien sûr que quand j'avais 17-18 ans, Georges Brassens m'a beaucoup aidé à apprendre le français, plus les classiques. Molière, Corneille, Racine, etc. Et mon français faisait à l'époque grand siècle. Ce n'est qu'en venant en France que j'ai réussi à le décoffrer. Quand on est adolescent, je pense qu'on est capable de réviser ses cours de lycée, de se coucher vers minuit, de se réveiller à 5 heures du matin, d'aller au lycée et d'étudier encore. Et donc, c'est ce que je faisais. J'étais vraiment dans ma coquille. Bien sûr que beaucoup de jeunes de mon âge s'intéressaient à la collection des timbres, aux filles, etc. Mais moi, je crois que c'était ma façon d'échapper un petit peu au terrorisme qui régnait. Je devais avancer, ça je le savais, je devais. Mais à mon rythme, à moi. Je savais que j'étais un tout petit peu en avance par rapport aux autres. Le bac a constitué une épreuve un peu plus difficile que les autres parce que je commençais déjà à contester ce qui s'enseignait. En philosophie, je n'étais pas d'accord. Je devais quand même, pour réussir, me soumettre. Et donc, il fallait que j'écrive quelque chose qui cadre avec ce qu'on m'a appris, sans sortir du sujet. Tandis qu'avec l'anglais, le français, d'autres matières, j'avais plus de champ, plus de liberté.
Mais pourquoi tu n'étais pas d'accord avec les cours de philosophie ?
Parce que c'était systématiquement la thèse, l'antithèse, la synthèse. Et quand on étudiait les systèmes politiques, c'était l'antithèse, la thèse, c'était le capitalisme, c'est pas bon. L'antithèse, alors on va se diriger vers le socialiste, c'est pas bon. La synthèse, le meilleur système politique, c'était l'islam. J'écoutais déjà les ondes courtes qui m'avaient appris qu'il n'y avait pas un seul mode de pensée.
Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire en compagnie de Bachir. Et avant de le retrouver, juste une petite info. Si vous voulez rejoindre l'équipe, afin de créer tous ensemble les futures émissions, contactez-nous par mail à l'imaginoire, @lilo.org. Vous pouvez également contacter votre radio qui nous transmettra le message. Et retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube. Allez Bachir, c'est à toi à nouveau.
J'ai quand même eu mon bac avec mention. Et c'est là que j'ai découvert mon premier pays étranger. Et moi, je faisais partie des 30 meilleurs de l'Algérie qui étaient envoyés en Tunisie. C'était 15 jours théoriques où on pouvait sortir sans avoir peur que quelqu'un nous tire dessus. On pouvait aller à la plage, on pouvait faire tout ce qu'on voulait pendant 15 jours.
Tu reviens en filigrane sur la période terroriste des années 90. C'était quoi ton approche de ces événements, puisque tu sembles dire que c'était compliqué de pouvoir se déplacer librement?
Oui. La sécurité posait vraiment problème à l'époque. Mon approche à l'époque, c'était quand même de ne pas trop parler de mes opinions et puis de ne pas sortir après 18-19 heures. J'enfreignais souvent ces règles, mais c'était quand même quelque chose qu'il fallait, faire très attention. Quand j'étais encore au lycée, en 1995, je me rappelle de l'attaque qu'avaient subi les Pères Blancs à l'époque. La maison des Pères Blancs a été attaquée par 3 individus. Et un des Pères Blancs a sauté par la terrasse, se cassant une cheville. Nous étions très très touchés dans la famille parce que nos relations avec les Pères Blancs étaient quand même très étroites. Il fallait aussi que je fasse attention parce que de temps en temps, on entendait des interventions policières. On entendait des balles, des tirs de Kalachnikov, des choses comme ça. Et c'était pas très loin de la maison. D'ailleurs, ça a coïncidé justement avec cette attaque des Pères Blancs. Quelques jours avant, vers 7h05, on entendait déjà des tirs de Kalachnikov. Et mon père nous a dit « Je ne vais pas travailler aujourd'hui. Taisez-vous, ne parlez pas. » Et donc, nous n'avons pas pu mener une journée ordinaire. Mais je suis quand même parti au lycée. Et sur la route au lycée, il y avait des traces de sang parce qu'il y avait, pour donner l'exemple, un des terroristes qui a été tué a été traîné tout au long de la route avant d'être suspendu. Je vous épargne ça, c'est horrible. Mais j'avais reçu un magnétophone 4 pistes avec la possibilité d'écouter les publications de la librairie du Congrès américain sur une cassette. Et c'est comme ça que j'écoutais The Reader's Digest, Newsweek et d'autres publications encore.
Mais si je fais le calcul un peu là, on parle de la langue française, de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien.
L'espéranto. J'ai des rudiments de portugais et de catalan.
À l'époque. Donc on est à la fin du lycée là.
Là on est à la fin. Le reste, après, ce n'était que de la répétition et du perfectionnement. Qui m'a dit un jour qu'on vit beaucoup de choses jusqu'à 25 ans et puis après on consolide? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Oh, moi j'espère qu'on apprend toute la vie quand même.
Oui, bien sûr. Donc, je devais récupérer ce magnétophone. J'appelle les Pères Blancs et je leur dis, écoutez, j'aimerais bien pouvoir passer pour récupérer mon magnétophone. Et ça, et là, ils m'ont dit, attention, nous avons été attaqués, sois prudent. Ça a coïncidé avec l'affaire de l'avion qui a été détourné, l'intervention du GIGN. Mmh.
Sur le tarmac.
Voilà. Ouais. Et ça a coïncidé avec l'épisode de Tizi Ouzou où 4 de mes amis Pères Blancs étaient tués dès leur arrivée. Donc, c'était une période où il y avait beaucoup de joie, d'études, mais où il fallait vraiment être très, très prudent.
Madame, monsieur, bonsoir. Au lendemain de la mort des 4 membres du commando islamiste qui avait détourné l'Airbus d'Air France, 4 religieux catholiques, 3 Français et un Belge ont été assassinés ce matin à l'arme automatique dans leur presbytère de Tizi Ouzou en Kabylie. Parmi les victimes, Jean Chevillard, un religieux de 69 ans, présent depuis très longtemps en Algérie et qui est particulièrement apprécié là-bas. Michael Darmon.
Tout le monde le sait, à Tizi Ouzou, la porte du vieux presbytère des Pères Blancs Maristes n'est jamais fermée. Il est un peu plus de 11h ce matin lorsque 3 hommes se faisant passer pour des nécessiteux tentent de prendre en otage les 4 religieux.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire. On retrouve donc Bachir qui, élément important, si vous prenez l'émission en route, est non-voyant.
Ma parole, quand on a 20 ans, au moins, même un petit peu plus, on couche sur un tas de cailloux. Ça ne nous dérange pas. Bon, tout en sachant très bien que l'environnement est hostile. Moi, j'ai adopté des règles de prudence, mais il me manquait l'élément visuel, donc il fallait foncer. Quand il fallait aller à la fac, je prenais le bus à 5h du matin pour quitter Gardaïa. Arrivé à Alger, je ne savais pas si j'allais arriver sain et sauf, quoi. quand je rentrais, je ne savais pas si j'allais arriver sain et sauf chez moi non plus. Parce qu'il y avait des faux barrages. Il y avait des pseudo-militaires qui pouvaient nous arrêter, nous faire descendre du bus, nous égorger ou nous fusiller, quoi. Mais il fallait que j'étudie. Et il fallait que j'avance. Et c'était ancré en moi, donc je me disais, moi, je vais faire tout ce que je peux pour ne pas trop m'exposer, le reste, adieu vat. Et à Alger, après mon baccalauréat, je voulais faire de l'interprétariat. Mais je voulais étudier le français, l'anglais et l'espagnol. C'était impossible, il fallait choisir l'arabe et deux autres langues. Donc je me suis dit, je vais me lancer dans une étude littéraire, et c'est comme ça que j'ai commencé l'université à Alger avec l'anglais. Il fallait que je me débrouille par moi-même, puisque je n'avais qu'une seule langue à étudier. Mais ça m'a quand même ouvert d'autres univers à l'université, parce que étudier la langue, c'est bien. Mais moi, je voulais étudier aussi autre chose en relation avec cette langue. Et c'est ainsi que j'ai commencé à étudier Cultural Studies, d'abord les études culturelles du vieux continent, et puis après le Nouveau Monde avec le continent américain. Et donc je devais atteindre cette proficience, ce qu'on appelle proficiency, c'est-à-dire l'équilibre entre la parole, l'écrit, l'écoute et la lecture. Et comme j'avais déjà fait ça, plus ou moins consciemment, n'est-ce pas, c'était pas quelque chose qui me posait problème vraiment. Moi, je m'ennuyais un peu parce que c'était un peu trop long, à mon goût. Mais il y avait aussi quand même autre chose qui me distrayait, c'était la découverte de tout ce savoir qui était dans l'histoire et dans la littérature. Parce que lire des ouvrages à l'époque n'était pas facile. Tout n'était pas en braille. Rien, quasiment rien n'était en braille à l'université à Alger. Et c'est là où revient la solidarité. Il y avait toujours un copain pour me dicter. Il y avait toujours quelqu'un pour m'écrire. Il y avait toujours quelqu'un pour me lire. Je me rappelle de ce copain qui a passé toute la nuit à me lire Things Fall Apart par Chinua Achebe. C'était mon premier ouvrage de littérature africaine. J'ai eu ma licence en langue et littérature anglaise. Puis après, je voulais passer mon master's, ou ce qu'on appelle le magistère en Algérie. Et là, deux professeurs m'ont convoqué et m'ont dit que ce n'était pas possible, qu'étant donné que je suis aveugle, je ne peux pas continuer. Et que, de toute façon, le magistère est une contribution à la connaissance et qu'ils avaient plus de 140 candidats et qu'ils ne voyaient pas comment je pourrais faire, et qu'ils espéraient que ça pouvait se faire dans un prochain avenir. Prochain avenir qui n'est jamais venu. Révolté, en colère, avec ce sentiment d'injustice, je me suis dit, je vais à la radio et je vais faire un scandale jusqu'à ce que quelqu'un de responsable d'une émission me reçoive et que je puisse m'exprimer. Bon, je n'étais pas non plus un élève exemplaire, mais c'était pas juste. Je devais lutter plus que les autres. Ils viennent et ils me disent ça. Donc, je suis descendu à Alger, je suis arrivé à la radio. Qu'est-ce que vous voulez? Ah ben, je veux parler à quelqu'un parce qu'on ne veut pas me laisser passer mon magistère. Qui ont deux professeurs? Donc, quelqu'un est descendu et m'a parlé, mais rien n'a été fait par la suite. Téléphoné à mes parents, et mes parents ont contacté quelqu'un qu'ils connaissaient au niveau du ministère des Affaires religieuses, je crois, qui a appelé le directeur de la fac centrale d'Alger, qui a contacté l'institut où j'étais, donc l'université des langues et sciences humaines, et je me suis quand même présenté. Et au cours de l'épreuve, le chef du département, une dame, m'a dit, je tiens à te le dire, le directeur de la fac centrale est là pour voir si tout se passe bien pour toi. Donc, j'ai passé comme ça mon magistère. Mais les épreuves corrigées étaient corrigées par qui? Entre les correcteurs, il y avait les deux professeurs qui ne voulaient pas que je passe mon magistère. Il fallait que je mette la copie en braille avec la copie en caractères normaux transcrit par quelqu'un. Hein. J'avais besoin d'un secrétaire pour passer les examens. autant tendre le bâton pour se faire battre.
La situation est délicate.
Elle l'était. Je ne l'ai pas eu de toute façon, ce magistère. Mais la seconde année, je commençais à déprimer et le cœur n'y était plus. Je l'ai passé, mais je savais que je ne l'avais pas. Et c'est comme ça que je voulais quitter le pays à tout prix.
Et puis la conversation a continué comme ça. On est passé de sujet en sujet jusqu'à ce que l'on en vienne à parler de l'expérience de l'immigration. Comment l'avait-il vécu ? Et que pouvait-il nous en dire ? Alors on a enregistré ça. Mais après réécoute, Bachir n'était pas satisfait de son témoignage. C'est pourquoi il a voulu réenregistrer en totale autonomie ce que vous allez écouter maintenant. Et puis, tout de suite, à la fin de son témoignage, nous basculerons dans une nouvelle chronique de la peau proposée par Valérie. Vous êtes bien à l'écoute de l'imaginoire, à l'écoute des familles. On retrouve, pour une dernière intervention, Bachir.
L'immigration pour moi est une opportunité que je ne regrette nullement. D'abord, à cause de la liberté d'expression qui m'a été offerte. Lorsque j'ai atterri à l'aéroport, la première fois, je me suis dit, mon Dieu, je vais vivre quelque chose d'extraordinaire. Moi qui ai déjà le bagage et qui parle la langue, je ne croyais pas qu'il y avait des difficultés d'intégration infranchissables. C'est vrai que mon français faisait grand siècle au début, mais petit à petit et en contact des autres, j'ai appris à parler normalement et les activités que je faisais dès le début avec les autres m'ont permis d'écouter comment les gens parlaient, ce qu'ils disaient et de savoir pourquoi ils le disaient. Parce qu'il faut décoder dans beaucoup d'occasions. Je pense que les cafés, les rues et les transports en commun sont des endroits où on peut observer le comportement des autres. Et on se calque sur ce comportement presque inconsciemment, en ce sens où on se dit « je fais partie de ce pays ». Donc il faut que je puisse me comporter de façon qui ne détonne pas trop. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais dans l'adaptation, au début c'était un petit peu dur parce qu'il fallait faire connaissance avec des gens, et puis se rendre compte qu'on n'est pas là pour être corrigé, pas forcément. On est là pour apprendre et il faut pouvoir en tirer une conclusion. C'était pas toujours facile, mais petit à petit, les choses se sont aplanies d'elles-mêmes, au fur et à mesure des lectures, au fur et à mesure de mes fréquentations. J'ai beaucoup fait d'activités sportives, que ce soit à la montagne ou dans des gymnases parfois. Et ça m'a appris aussi à parler un langage presque dénué de ce que j'appellerais des expressions strictement académiques. L'immigration, pour moi, c'est se défaire d'une peau, mais pas totalement. Je pense que j'ai un fond éducatif qui restera toujours et qui fait partie de ma personnalité, dont je suis fier, mais il y a aussi toute une richesse. Quand on a une double culture, on est doublement riche, parce qu'on peut naviguer dans deux environnements sociaux différents, celui d'origine et celui d'accueil. La France est un très très beau pays. J'aurais seulement aimé que les projets soient un petit peu mieux finis quelquefois, qu'il y ait un petit peu moins de débats et que l'avancement dans n'importe quel projet, quel qu'il soit, se fasse de manière soutenue. Mais je ne suis pas là pour juger. L'immigration, c'est l'apprentissage de toute une vie. Je ne pense pas que j'ai fini. D'ailleurs, je crois que je m'ennuierais si jamais ça finirait un jour. Si jamais je commençais à me dire « l'apprentissage est fini », je me sentirais, je pense, comme dans une boîte. Voilà. L'immigration pour moi, c'est un nouveau monde qui s'ouvre, qu'il faut accepter qu'il faut chérir, qu'il faut aimer. J'ai appris à le faire sans que ce soit vraiment une difficulté pour moi.
Amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans La Peau, votre rendez-vous de l'actualité des podcasts. On connaissait le goût des Français pour la radio. On découvre leur engouement pour l'audio. Remember, mais vous ne l'avez certainement pas oublié, il y a 3 ans déjà, nous étions en plein confinement. Et oui, nous sommes depuis bien entendu sortis de nos tanières, mais pas toujours indemnes. On ressent encore les soubresauts de cette période souvent qualifiée de si particulière. À rester dedans, on s'est recentré, on s'est tourné vers notre intérieur, notre vie intérieure. On a eu du temps pour penser, et vu que dehors il ne se passait rien, on s'est intéressé à ce qui se passait en nous, dans ce qu'on peut appeler notre âme, notre esprit, notre psyché, voire notre inconscient. À cette époque, peut-être vous êtes-vous, comme moi, avalé en quelques soirées l'intégralité des épisodes de la série En thérapie. Depuis, les demandes auprès des psychologues, des psychanalystes explosent. Pas seulement parce que on ne va pas très bien, mais aussi parce que ça nous intéresse, notre monde interne. C'est à cette époque également que sont apparus sur les plateformes des podcasts qui parlent psychologie et psychanalyse. Aujourd'hui, je vous en présente une sélection. La fois dernière, j'avais évoqué le podcast natif, ma dernière séance de psychanalyse, où Guillaume part depuis 3 ans déjà à la rencontre de personnes qui ont fait une analyse et leur demande comment ça a commencé, comment ça s'est terminé et si ça a changé quelque chose dans leur vie. Guillaume produit tout lui-même et son travail a payé puisqu'il a remporté ça mérite l'écoute. Et dans la série témoignages, je vous invite également à écouter Divan, le podcast qui, nous dit-on dans le générique, diffuse le son de l'expérience analytique à notre époque. Ce sont des témoignages de personnes qui racontent leur rencontre avec la psychanalyse. La psychanalyse, et c'est là sa particularité, c'est à la fois une pratique, mais aussi une théorie. Une théorie que certains podcasts prennent le temps de présenter. Je pense notamment au podcast « Le comptoir de la psychologie » où Madame J expose chaque semaine des concepts, notions issues du champ de la psychologie clinique et d'inspiration analytique. Il y a aussi le podcast de Caroline Goldman, fille de Jean-Jacques, oui, mais aussi de Catherine qui était psychologue. Sa mère, donc plutôt que son père, lui a transmis sa passion. Son podcast s'intitule tout simplement Caroline Goldman. Il a une visée éducative comme le faisait jadis en son temps Françoise Dolto. Et ça peut éclairer les parents qui se posent des questions et ont besoin d'éclairage théorique et de conseils pratiques. Enfin, un petit dernier pour la route, c'est le podcast L'inconscient du docteur Nasio sur France Inter, le premier podcast interactif qui propose en amont sur le site de l'émission une présentation clinique, puis un temps d'échange avec les auditeurs. Et comme une question en amène une autre, on n'a pas fini de s'introspecter. La peau, c'est fini pour aujourd'hui, à bientôt pour un nouvel épisode.
Et oui, la peau, c'est fini. Et l'imaginoire aussi. Merci à Bachir et merci à Valérie. Si vous ou votre famille êtes touché par la déficience visuelle, sachez que vous pouvez rejoindre l'équipe et participer à cette aventure radiophonique. Par mail, l'imaginoire@lilo.org ou en vous adressant à votre radio qui nous passera le message. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook ou YouTube en nous cherchant à l'Imaginoire ou via Instagram, l'Imaginoire-8Radio. Cette émission est produite par l'association Résonance et soutenue par la Cave Drôme. À bientôt pour une nouvelle émission.